Anne-Marie Boutiot, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez jugé bon, alors que le wax est devenu très tendance dans les sociétés occidentales, de revenir sur l'origine, l'histoire de ces tissus?
Parce que justement, c'est l'histoire du tissu qui en fait sa richesse. Tout le monde le pense africain, mais en fait, il est originaire d'Indonésie, inspiré des batiks de Java. Il a été ensuite repris par les Européens, notamment la Hollande, les Pays-Bas, qui ont procédé à une technique qui rendait la confection plus rapide. Et ils l'ont introduit en Afrique occidentale d'abord, et puis de là, il a essaimé dans tout le continent africain. Les concepteurs occidentaux et hollandais ont utilisé des motifs qui provenaient d'Afrique pour les introduire dans le tissu. Donc il y a un vrai mélange entre Indonésie, Occident, Afrique, et la manière dont il a été pris en charge, je dirais, par l'Afrique, en a fait un véritable tissu africain, à juste titre.
À quel moment est-ce qu'il a eu le succès qu'on lui connaît en Afrique?
Dès le début du XXe siècle, ça a marché, j'ai presque envie de dire à fond, les missionnaires ont exigé que les personnes s'habillent. Donc le wax qui se présentait en lait de tissu de 2 yards, ce qui fait un peu moins de 2 mètres, ont permis que les personnes s'enroulent littéralement dans le tissu. C'est ce qui a donné lieu aux pagnes qu'on utilise dans les villages. Et puis très rapidement aussi, les tailleurs dans les villes ont commencé à tailler des jupes, des vestes, des blouses. Donc il y a eu 2 manières différentes de porter le wax très très rapidement.
Et alors il y a celles qu'on appelle les nanabands au Togo qui ont beaucoup contribué au succès du wax produit par la compagnie hollandaise Vlisco.
Vlisco, effectivement, ce sont des vendeuses de tissus au marché et elles transmettaient les goûts de leurs clientes, les demandes en couleurs, en motifs, etc.
Et comment on en est venu à donner des noms au wax en fonction des motifs qui y figurent?
Les motifs ont été réappropriés en Afrique, en fonction des ethnies, des pays, des régions. On se retrouve par exemple avec la population Igbo au Nigeria qui donne un nom particulier à un wax particulier et qui en fait son emblème. Ce qui est amusant, c'est que dans les milieux familiaux, les wax sont aussi servis à énoncer quelque chose. C'est un moyen de communication. Une femme peut porter un pagne avec un certain motif et on comprendra qu'elle est jalouse, que son mari a une maîtresse. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans des sociétés où parfois on n'ose pas exprimer trop directement ce qu'on ressent, mettre un pagne qui a une signification que tout le monde connaît, c'est un moyen de communiquer.
Il y a des motifs qui sont devenus célèbres. Par exemple, les ongles de Marie-Thérèse, en référence à Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, l'épouse de l'ancien président de Côte d'Ivoire.
Oui, on a associé un certain motif aux ongles de Marie-Thérèse, qui étaient probablement très bien manucurés. Et il y a d'autres exemples, comme le motif qui s'appelle la famille. Il y a des endroits où ça s'appelle la famille et d'autres où on dit carrément « mon mari est incapable ». C'est une poule avec ses poussins. Et la seule présence du coq, c'est seulement sa tête. Son corps n'est même pas là.
Vous écrivez toutefois que les jeunes générations prêtent moins d'importance aux symboles.
Oui, les jeunes sont beaucoup plus fascinés par l'attrait esthétique du wax, ce qui finalement rejoint maintenant la tendance qu'on voit en Occident aussi, où le wax est extrêmement à la mode.
Comment se fait-il qu'il soit devenu ultra tendance en Occident?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des designers et des grands couturiers qui ont commencé à travailler avec ce matériel et ça a marché. Je pense aussi que c'est sa charge d'exotisme. Le rôle des stars, le rôle d'artistes contemporains qui ont commencé à intégrer du wax dans leurs œuvres. Tout ça a une emprise visuelle qui est extrêmement forte.
Ce qui fait aujourd'hui que, par exemple, Vlisco, géant historique du secteur, mise justement aussi beaucoup sur l'engouement que suscitent ces tissus en Occident.
Oui, mais Vlisco a beaucoup de problèmes malgré tout parce que les pays africains sont de plus en plus économiquement pauvres. Donc il y a de moins en moins de personnes qui achètent les tissus Vlisco parce qu'ils sont très chers. Ils passent par des procédés techniques tellement sophistiqués. Et donc ce sont des tissus de luxe. En Afrique, il est toujours bien d'avoir des pagnes qui sont authentiquement hollandais. Mais malgré tout, l'attrait des pagnes et des wax asiatiques qui sont beaucoup moins chers fait que Vlisco a beaucoup de difficultés parce que la grosse clientèle de Vlisco, c'est l'Afrique, c'est les millions.
90% de sa production part toujours en Afrique via le port de Cotonou.
Oui, oui.
Anne-Marie Boutiot, merci.